Avec un tel mari, René était aussi peu mariée que possible. Elle restait des semaines entières sans presque le voir. D'ailleurs, il était parfait. Il ouvrait pour elle sa caisse toute grande. Au fond, elle l'aimait comme un banquier obligeant. Quand elle allait à l'hôtel Béraud, elle faisait un grand éloge de lui devant son père, que la fortune de son gendre laissait sévère et froid. Son mépris s'en était allé. Cet homme semblait si convaincu que la vie n'est qu'une affaire, il était si évidemment né pour battre monnaie avec tout ce qui lui tombait sous les mains. Femme, enfant, pavé, sac de plâtre, conscience, qu'elle ne pouvait lui reprocher le marché de leur mariage. Depuis ce marché, il la regardait un peu comme une de ces belles maisons qui lui faisaient honneur et dont il espérait tirer de gros profits. Il la voulait bien mise, bruyante, faisant tourner la tête à tout Paris. Cela le posait, doublait le chiffre probable de sa fortune. Il était beau, jeune, amoureux et cervelé par sa femme. Elle était une associée, une complice sans le savoir. Un nouvel attelage, une toilette de 2000 écus, une complaisance pour quelque amant, facilitèrent, décidèrent souvent ses plus heureuses affaires. Souvent aussi, il se prétendait accablé, l'envoyait chez un ministre, chez un fonctionnaire quelconque, pour solliciter une autorisation ou recevoir une réponse. Il lui disait « Et sois sage !» d'un ton qui n'appartenait qu'à lui, à la fois railleur et câlin. Et quand elle revenait, qu'elle avait réussi, il se frottait les mains en répétant son fameux « Et tu as été sage !» René riait. Il était trop actif pour souhaiter une Madame Michelin. Il aimait simplement les plaisanteries crues, les hypothèses scabreuses. D'ailleurs, si René n'avait pas été sage, il n'aurait éprouvé que le dépit d'avoir réellement payé la complaisance du ministre ou du fonctionnaire. Duper les gens, leur en donner moins que pour leur argent, était un régal. Il se disait souvent « Si j'étais femme, je me vendrais peut-être, mais je ne livrerais jamais la marchandise, c'est trop bête. » Cette folle de René, qui était apparue une nuit dans le ciel parisien comme la fée excentrique des voluptés mondaines, était la moins analysable des femmes. Élevée au logis, elle eut sans doute émoussé, par la religion ou par quelque autre satisfaction nerveuse, les pointes des désirs dont les piqûres la follaient par instant. Elle était bourgeoise. Elle avait une honnêteté absolue, un amour des choses logiques, une crainte du ciel et de l'enfer, une dose énorme de préjugés. Elle appartenait à son père, à cette race calme et prudente où fleurissent les vertus du foyer. Et c'était dans cette nature que germaient, que grandissaient les fantaisies prodigieuses, les curiosités sans cesse renaissantes, les désirs inavouables. Chez les dames de la Visitation, libre, l'esprit vagabondant dans les voluptés mystiques de la chapelle et dans les amitiés charnelles de ses petites amies, elle s'était fait une éducation fantasque, apprenant le vice, y mettant la franchise de sa nature, détraquant sa jeune cervelle, au point qu'elle embarrassa singulièrement son confesseur en lui avouant qu'un jour, pendant la messe, elle avait eu une envie irraisonnée de se lever pour l'embrasser. Puis elle se frappait la poitrine, elle pâlissait à l'idée du diable et de ses chaudières. La faute qui amena plus tard son mariage avec Saccard, ce viol brutal qu'elle subit avec une sorte d'attente épouvantée, la fit ensuite se mépriser et fut pour beaucoup dans l'abandon de toute sa vie. Elle pensa qu'elle n'avait plus à lutter contre le mal, qu'il était en elle, que la logique l'autorisait à aller jusqu'au bout de la science mauvaise. Elle était plus encore une curiosité qu'un appétit. Jetée dans le monde du Second Empire, abandonnée à ses imaginations, entretenue d'argent, Encouragée dans ses excentricités les plus tapageuses, elle se livra, le regretta, puis réussit enfin à tuer son honnêteté expirante, toujours fouettée, toujours poussée en avant par son insatiable besoin de savoir et de sentir. D'ailleurs, elle n'en était qu'à la page commune. Elle causait volontiers, à demi-voix, avec des rires, dans ces extraordinaires de la tendre amitié de Suzanne Hafner et d'Adeline d'Espanay, du métier délicat de Madame de Lawrence, des baisers à prix fixe de la comtesse Vanska. Mais elle regardait encore ces choses de loin, avec la vague idée d'y goûter peut-être, et ce désir indéterminé qui montait en elle aux heures mauvaises, grandissait encore cette anxiété turbulente, cette recherche effarée d'une jouissance unique, exquise, où elle mordrait toute seule. Ses premiers amants ne l'avaient pas gâtée. Trois fois, elle s'était crue prise d'une grande passion. L'amour éclatait dans sa tête comme un pétard, dont les étincelles n'allaient pas jusqu'au cœur. Elle était folle un mois, s'affichait avec son cher seigneur dans tout Paris. Puis, un matin, au milieu du tapage, de sa tendresse, elle sentait un silence écrasant, un vide immense. Le premier, le jeune duc de Rosan, ne fut guère qu'un déjeuner de soleil. René, qui l'avait remarqué pour sa douceur et sa tenue excellente, le trouva en tête à tête absolument nul, déteint, assommant. Monsieur Simpson, attaché à l'ambassade américaine qui vint ensuite, faillit la battre et dut à cela de rester plus d'un an avec elle. Puis, elle accueillit le comte de Chilbray, un aide de camp de l'empereur, bel homme vaniteux qui commençait à lui peser singulièrement lorsque la duchesse de Sternink s'avisa de s'en amouracher et de le lui prendre. Alors elle le pleura, elle fit entendre à ses amis que son cœur était broyé, qu'elle n'aimerait plus. Elle en arriva ainsi à Monsieur de Mussy, l'être le plus insignifiant du monde, un jeune homme qui faisait son chemin dans la diplomatie en conduisant le cotillon avec des grâces particulières. Elle ne sut jamais bien comment elle s'était livrée à lui, et le garda longtemps, prise de paresse, dégoûtée d'un inconnu qu'on découvre en une heure, attendant, pour se donner les soucis d'un changement, de rencontrer quelque aventure extraordinaire. À 28 ans, elle était déjà horriblement lasse. L'ennui lui paraissait d'autant plus insupportable que ses vertus bourgeoises profitaient des heures où elle s'ennuyait pour se plaindre et l'inquiéter. Elle fermait sa porte, elle avait des migraines affreuses. Puis, quand la porte se rouvrait, c'était un flot de soie et de dentelle qui s'en échappait à grand tapage, une créature de luxe et de joie, sans un souci, ni une rougeur au front. Dans sa vie banale et mondaine, elle avait eu, cependant, un roman. Un jour, au crépuscule, comme elle était sortie à pied pour aller voir son père, qui n'aimait pas à sa porte le bruit des voitures. Elle s'aperçut, au retour, sur le quai Saint-Paul, qu'elle était suivie par un jeune homme. Il faisait chaud, le jour mourait avec une douceur amoureuse. Elle, qu'on ne suivait qu'à cheval, dans les allées du bois, elle trouva l'aventure piquante. Elle en fut flattée comme d'un hommage nouveau, un peu brutal, mais dont la grossièreté même la chatouillait. Au lieu de rentrer chez elle, elle prit la rue du Temple, promenant son galant le long des boulevards. Cependant, l'homme s'enhardit, devint si pressant que Renée, un peu interdite, perdant la tête, suivit la rue du Faubourg Poissonnière et se réfugia dans la boutique de la sœur de son mari. L'homme entra derrière elle. Madame Sidonie sourit, parut comprendre et les laissa seuls. Et comme René voulait la suivre, l'inconnu la retint, lui parla avec une politesse émue, gagna son pardon. C'était un employé qui s'appelait Georges et auquel elle ne demanda jamais son nom de famille. Elle vint le voir deux fois. Elle entrait par le magasin, il arrivait par la rue Papillon. Cet amour de rencontre, trouvé et accepté dans la rue, fut un de ses plaisirs les plus vifs. Elle y songea toujours, avec quelque honte, mais avec un singulier sourire de regret. Madame Sidonie gagna à l'aventure d'être enfin la complice de la seconde femme de son frère, un rôle qu'elle ambitionnait depuis le jour du mariage. Cette pauvre Madame Sidonie avait eu un mécompte. Tout en maquignonnant le mariage, elle espérait épouser un peu René, elle aussi, en faire une de ses clientes, tirer d'elle une foule de bénéfices. Elle jugeait les femmes au coup d'œil, comme les connaisseurs jugent les chevaux. Aussi, sa consternation fut grande lorsque, après avoir laissé un mois au ménage pour s'installer, elle comprit qu'elle arrivait déjà trop tard, en apercevant Madame de Lawrence trônant au milieu du salon. Cette dernière, belle femme de 26 ans, faisait métier de lancer les nouvelles venues. Elle appartenait à une très ancienne famille, était mariée à un homme de la haute finance qui avait le tort de refuser le paiement des mémoires de modiste et de tailleur. La dame, personne fort intelligente, battait monnaie, s'entretenait elle-même. Elle avait horreur des hommes, disait-elle, mais elle en fournissait à toutes ses amies. Il y en avait toujours un achalandage complet dans l'appartement qu'elle occupait rue de Provence, au-dessus des bureaux de son mari. On y faisait de petits goûters, on s'y rencontrait d'une façon imprévue et charmante. Il n'y avait aucun mal à une jeune fille d'aller voir sa chère Madame de Lawrence, et tant pis si le hasard amenait là des hommes, très respectueux d'ailleurs, et du meilleur monde. La maîtresse de la maison était adorable dans ses grands peignoirs de dentelle. Souvent, un visiteur l'aurait choisie de préférence, en dehors de sa collection de blondes et de brunes. Mais la chronique assurait qu'elle était d'une sagesse absolue. Tout le secret de l'affaire était là. Elle conservait sa haute situation dans le monde, avait pour amis tous les hommes, gardait son orgueil de femme honnête, goûtait une secrète joie à faire tomber les autres et à tirer profit de leur chute. Lorsque Madame Sidonie se fut expliqué le mécanisme de l'invention nouvelle, elle fut navrée. C'était l'école classique, la femme en vieille robe noire portant des billets doux au fond de son cabas, mise en face de l'école moderne, de la grande dame qui vend ses amis dans son boudoir en buvant une tasse de thé. L'école moderne triompha. Madame Lawrence eut un regard froid pour la toilette fripée de Madame Sidonie, dans laquelle elle flaira une rivale. Et ce fut de sa main que René reçut son premier ami, le jeune duc de Rosan, que la belle financière plaçait très difficilement. L'école classique ne l'emporta que plus tard, lorsque Madame Sidonie prêta son entresol aux caprices de sa belle-sœur pour l'inconnu du quai Saint-Paul. Elle resta sa confidente. Mais une des fidèles de Madame Sidonie fut Maxime. Dès 15 ans, il allait rôder chez sa tante, flairant les gants oubliés qu'il rencontrait sur les meubles. Celle-ci, qui détestait les situations franches et qui n'avouait jamais ses complaisances, finit par lui prêter les clés de son appartement, certains jours, disant qu'elle resterait jusqu'au lendemain à la campagne. Maxime parlait d'amis à recevoir qu'il n'osait faire venir chez son père. Ce fut dans l'entresol de la rue du Faubourg-Poissonnière qu'il passa plusieurs nuits avec cette pauvre fille qu'on dut envoyer à la campagne. Madame Sidonie empruntait de l'argent à son neveu, se pâmait devant lui, en murmurant de sa voix douce qu'il était « sans un poil, rose comme un amour ». Cependant, Maxime avait grandi. C'était, maintenant, un jeune homme mince et joli qui avait gardé les joues roses et les yeux bleus de l'enfant. Ses cheveux bouclés achevaient de lui donner cet air fille qui enchantait les dames. Il ressemblait à la pauvre Angèle, avec sa douceur de regard, sa pâleur blonde. mais il ne valait pas même cette femme indolente et nulle. La race des Rougon s'affinait en lui, devenait délicate et vicieuse. Née d'une mère trop jeune, apportant un singulier mélange, heurtée et comme disséminée des appétits furieux de son père et des abandons, des mollesses de sa mère. Il était un produit défectueux, où les défauts des parents se complétaient et s'empiraient. Cette famille vivait trop vite. Elle se mourait déjà dans cette créature frêle, chez laquelle le sexe avait dû hésiter, et qui n'était plus une volonté âpre au gain et à la jouissance, comme Saccard, mais une lâcheté mangeant les fortunes faites. Hermaphrodite étrange, venu à son heure dans une société qui pourrissait. Quand Maxime allait au bois, pincé à la taille comme une femme, dansant légèrement sur la selle où le balançait le galop léger de son cheval, il était le dieu de cet âge, avec ses hanches développées, ses longues mains fluettes, son air maladif et polisson, son élégance correcte et son argot des petits théâtres. Il se mettait, à 20 ans, au-dessus de toutes les surprises et de tous les dégoûts. Il avait certainement rêvé les ordures les moins usitées. Le vice, chez lui, n'était pas un abîme, comme chez certains vieillards, mais une floraison naturelle et extérieure. Il ondulait sur ses cheveux blonds, souriait sur ses lèvres, l'habillait avec ses vêtements. Mais ce qu'il avait de caractéristique, c'était surtout les yeux. Deux trous bleus, clairs et souriants, des miroirs de coquette, derrière lesquels on apercevait tout le vide du cerveau. Ses yeux de fille à vendre ne se baissaient jamais. Il quêtait le plaisir. Un plaisir sans fatigue qu'on appelle et qu'on reçoit. L'éternel coup de vent qui entrait dans l'appartement de la rue de Rivoli et en faisait battre les portes souffla plus fort à mesure que Maxime grandit, que Saccard élargit le cercle de ses opérations et que René mit plus de fièvre dans sa recherche d'une jouissance inconnue. Ces trois êtres finirent par y mener une existence étonnante de liberté et de folie. Ce fut le fruit mûr et prodigieux d'une époque. La rue montait dans l'appartement avec son roulement de voiture, son coudoiement d'inconnus, sa licence de parole. Le père, la belle-mère, le beau-fils agissaient, parlaient, se mettaient à l'aise, comme si chacun d'eux se fût trouvé seul, vivant en garçon. Trois camarades, trois étudiants, partageant la même chambre garnie, n'auraient pas disposé de cette chambre avec plus de 100 gêne pour y installer leurs vices, leurs amours, leur joie bruyante de grands galopins. Ils s'acceptaient avec des poignées de main, ne paraissaient pas se douter des raisons qui les réunissaient sous le même toit, se traitaient cavalièrement, joyeusement, se mettant chacun ainsi dans une indépendance absolue. L'idée de famille était remplacée chez eux par celle d'une sorte de commandite où les bénéfices sont partagés à parts égales. Chacun tirait à lui sa part de plaisir et il était entendu tacitement que chacun mangerait cette part comme il l'entendrait. Ils en arrivèrent à prendre leurs réjouissances les uns devant les autres, à les étaler, à les raconter, sans éveiller autre chose qu'un peu d'envie et de curiosité. Maintenant, Maxime instruisait René. Quand il allait au bois avec elle, il lui contait sur les filles des histoires qui les égayaient fort. Il ne pouvait paraître au bord du lac une nouvelle venue sans qu'il se mît en campagne pour se renseigner sur le nom de son amant, la rente qu'il lui faisait, la façon dont elle vivait. Il connaissait les intérieurs de ces dames, savait des détails intimes, était un véritable catalogue vivant où toutes les filles de Paris étaient numérotées, avec une notice très complète sur chacune d'elles. Cette gazette scandaleuse faisait la joie de René. À Longchamp, les jours de course, lorsqu'elle passait dans sa calèche, elle écoutait avec âpreté, tout en gardant sa hauteur de femme du vrai monde. Comment Blanche Muller trompait son attaché d'ambassade avec son coiffeur? Ou comment le petit baron avait trouvé le comte en caleçon dans l'alcôve d'une célébrité maigre, rouge de cheveux, qu'on nommait l'écrevisse? Chaque jour apportait son cancan. Quand l'histoire était par trop crue, Maxime baissait la voix, mais il allait jusqu'au bout. René ouvrait de grands yeux d'enfant à qui l'on raconte une bonne farce, retenait ses rires, puis les étouffait dans son mouchoir brodé qu'elle appuyait délicatement sur ses lèvres. Maxime apportait aussi les photographies de ces dames. Il avait des portraits d'actrices dans toutes ses poches et jusque dans son porte-cigare. Parfois, il se débarrassait. Il mettait ces dames dans l'album qui traînait sur les meubles du salon et qui contenait déjà les portraits des amis de René. Il y avait aussi là des photographies d'hommes, messieurs de Rosan, Simpson, de Chilbray, de Mussy, ainsi que des acteurs, des écrivains, des députés qui étaient venus, on ne savait comment, grossir la collection. Monde singulièrement mêlé, image du tohu-bohu d'idées et de personnages qui traversaient la vie de René et de Maxime. Cet album, quand il pleuvait, quand on s'ennuyait, était un grand sujet de conversation. Il finissait toujours par tomber sous la main. La jeune femme l'ouvrait en bâillant, pour la centième fois peut-être. Puis la curiosité se réveillait, et le jeune homme venait s'accouder derrière elle. Alors, c'était de longues discussions sur les cheveux de l'écrevisse, le double menton de Madame de Maynold, les yeux de Madame de Lawrence, la gorge de Blanche Muller, le nez de la marquise qui était un peu de travers, la bouche de la petite Sylvia, célèbre par ses lèvres trop fortes. Il comparait les femmes entre elles. « Moi, si j'étais homme, disait René, je choisirais Adeline. » « C'est que tu ne connais pas Sylvia, » répondait Maxime. « Elle est d'un drôle. Moi, j'aime mieux Sylvia. » Les pages tournaient. Parfois apparaissait le duc de Rosan ou M. Simpson ou le comte de Chilbray. Et il ajoutait en raillant « D'ailleurs, tu as le goût perverti, c'est connu. Peut-on voir quelque chose de plus sot que le visage de ces messieurs ? Rosan et Chilbray ressemblent à Gustave, mon perruquier. » René haussait les épaules comme pour dire que l'ironie ne l'atteignait pas. Elle continuait à s'oublier dans le spectacle des figures blêmes, souriantes ou revêches que contenait l'album. Elle s'arrêtait au portrait de fille plus longuement, étudiait avec curiosité les détails exacts et microscopiques des photographies, les petites rides, les petits poils. Un jour même, elle se fit apporter une forte loupe, ayant cru apercevoir un poil sur le nez de l'écrevisse. Et en effet, la loupe montra un léger fil d'or qui s'était égaré des sourcils et qui était descendu jusqu'au milieu du nez. Ce poil les amusa longtemps. Pendant une semaine, les dames qui vinrent durent s'assurer par elles-mêmes de la présence du poil. La loupe servit dès lors à éplucher les figures des femmes. René fit des découvertes étonnantes. Elle trouva des rides inconnues, des peaux rudes, des trous mal bouchés par la poudre de riz. Et Maxime finit par cacher la loupe en déclarant qu'il ne fallait pas se dégoûter comme cela de la figure humaine. La vérité était qu'elle soumettait à un examen trop rigoureux les grosses lèvres de Sylvia, pour laquelle il avait une tendresse particulière. Ils inventèrent un nouveau jeu. Ils posaient cette question « Avec qui passerais-je volontiers une nuit ?» Et ils ouvraient l'album qui était chargé de la réponse. Cela donnait lieu à des accouplements très réjouissants. Les amis y jouèrent plusieurs soirées. René fut ainsi successivement marié à l'archevêque de Paris, au baron Gouraud, à M. de Chilbray, ce qui fit beaucoup rire, et à son mari lui-même, ce qui la désola. Quant à Maxime, soit hasard, soit malice de René qui ouvrait l'album, il tombait toujours sur la marquise. Mais on ne riait jamais autant que lorsque le sort accouplait deux hommes ou deux femmes ensemble. La camaraderie de René et de Maxime alla si loin qu'elle lui conta ses peines de cœur. Il la consolait, lui donnait des conseils. Son père ne semblait pas exister. Puis, ils en vinrent à se faire des confidences sur leur jeunesse. C'est surtout pendant leur promenade au bois qu'ils ressentaient une langueur vague, un besoin de se raconter des choses difficiles à dire et qu'on ne raconte pas. Cette joie que les enfants éprouvent à causer tout bas des choses défendues, cet attrait qu'il y a pour un jeune homme et une jeune femme à descendre ensemble dans le péché, en paroles seulement, les ramenait sans cesse au sujet scabreux. Ils y jouissaient profondément d'une volupté qu'ils ne se reprochaient pas, qu'ils goûtaient, mollement étendus aux deux coins de leur voiture, comme des camarades qui se rappellent leurs premières escapades. Ils finirent par devenir des fanfarons de mauvaise mœur. René avoua qu'au pensionnat, les petites filles étaient très polissonnes. Maxime renchérit et osa raconter quelques-unes des hontes du collège de Plassans. « Ah, moi, je ne puis pas dire !» murmurait René. Puis elle se penchait à son oreille, comme si le bruit de sa voix l'eût seul fait rougir, et elle lui confiait une de ces histoires de couvent qui traînent dans les chansons ordurières. Lui avait une trop riche collection d'anecdotes de ce genre pour rester à court. Il lui chantonnait à l'oreille des couplets très crus, et ils entraient, peu à peu, dans un état de béatitude particulier, bercé par toutes ces idées charnelles qu'il remuait, chatouillé par de petits désirs qui ne se formulaient pas. La voiture roulait doucement, il rentrait avec une fatigue délicieuse, plus lassé qu'au matin d'une nuit d'amour. Ils avaient fait le mal, comme deux garçons courant les sentiers sans maîtresse et qui se contentent avec leurs souvenirs mutuels. Une familiarité, un abandon plus grand encore, existait entre le père et le fils. Saccard avait compris qu'un grand financier doit aimer les femmes et faire quelques folies pour elles. Il était d'amour brutal, préférait l'argent. Mais il entra dans son programme de courir les alcôves, de semer les billets de banque sur certaines cheminées, de mettre de temps à autre une fille célèbre comme une enseigne dorée à ses spéculations. Quand Maxime fut sorti du collège, ils se rencontrèrent chez les mêmes dames, et ils en rirent. Ils furent même un peu rivaux. Parfois, lorsque le jeune homme dînait à la Maison d'Or, avec quelques bandes tapageuses, il entendait la voix de Saccard dans un cabinet voisin. « Tiens, papa qui est à côté !» s'écriait-il avec la grimace qu'il empruntait aux acteurs en vogue. Il allait frapper à la porte du cabinet, curieux de voir la conquête de son père. « Ah, c'est toi !» disait celui-ci d'un ton réjoui. « Entre donc, vous faites un tapage à ne pas s'entendre manger. Avec qui donc êtes-vous là ?» Mais il y a Lord Origny, Sylvia, l'écrevisse, puis deux autres encore, je crois. Elles sont étonnantes. Elles mettent les doigts dans les plats et nous jettent des poignées de salade à la tête. J'ai mon habit plein d'huile. Le père riait, trouvait cela très drôle. Ah, jeunes gens, murmurait-il. Ce n'est pas comme nous, n'est-ce pas, mon petit chat? Nous avons mangé bien tranquillement. Et nous allons faire dodo. » Et il prenait le menton de la femme qu'il avait à côté de lui. Il roucoulait avec son asillement provençal, ce qui produisait une étrange musique amoureuse. « Oh, le vieux serin !» s'écriait la femme. « Bonjour, Maxime. Faut-il que je vous aime, hein, pour consentir à souper avec votre coquin de père? On ne vous voit plus. Venez après-demain matin de bonne heure. Non, vrai, j'ai quelque chose à vous dire. » Saccard achevait une glace ou un fruit à petite bouchée avec béatitude. Il baisait l'épaule de la femme en disant plaisamment: Vous savez, mes amours, si je vous gêne, je vais m'en aller. Vous sonnerez quand on pourra rentrer. » Puis il emmenait la dame, ou parfois allait avec elle se joindre au tapage du salon voisin. Maxime et lui partageaient les mêmes épaules, leurs mains se rencontraient autour des mêmes tailles. Ils s'appelaient sur les divans, se racontaient tout haut les confidences que les femmes leur faisaient à l'oreille. Et ils poussaient l'intimité jusqu'à conspirer ensemble pour enlever à la société la blonde ou la brune que l'un d'eux avait choisie. Ils étaient bien connus à Mabille. Ils y venaient bras dessus, bras dessous, à la suite de quelques dîners fins, faisaient le tour du jardin, saluant les femmes, leur jetant un mot au passage. Ils riaient haut, sans se quitter le bras, se prêtaient main forte au besoin dans les conversations trop vives. Le père, très fort sur ce point, débattait avantageusement les amours du fils. Parfois, il s'asseyait, buvait avec une bande de filles. Puis ils changeaient de table, reprenaient leurs courses. Et jusqu'à minuit, on les voyait, les bras toujours unis dans leur camaraderie, poursuivre des jupes le long des allées jaunes sous la flamme crue des becs de gaz. Quand ils rentraient, ils rapportaient du dehors dans leurs habits un peu des filles qu'ils quittaient. Leurs attitudes déhanchées, le reste de certains mots risqués et de certains gestes canailles emplissaient l'appartement de la rue de Rivoli d'une senteur d'alcôve suspecte. La façon molle et abandonnée dont le père donnait la main au fils disait seule d'où il venait. Et c'était dans cet air que Renée respirait ses caprices, ses anxiétés sensuelles. Elle les raillait nerveusement. « D'où venez-vous donc ?» leur disait-elle. « Vous sentez la pipe et le musc. C'est sûr, je vais avoir la migraine. » Et l'odeur étrange, en effet, la troublait profondément. C'était le parfum persistant de ce singulier foyer domestique. Cependant, Maxime se prit d'une belle passion pour la petite Sylvia. Il ennuya sa belle-mère pendant plusieurs mois avec cette fille. Renée la connut bientôt d'un bout à l'autre, de la plante des pieds à la pointe des cheveux. Elle avait un signe bleuâtre sur la hanche. Rien n'était plus adorable que ses genoux. Ses épaules avaient cette particularité que la gauche seulement était trouée d'une fossette. Maxime mettait quelque malice à occuper leur promenade des perfections de sa maîtresse. Un soir, au retour du bois, les voitures de René et de Sylvia, prises dans un embarras, durent s'arrêter côte à côte aux Champs-Élysées. Les deux femmes se regardèrent avec une curiosité, tandis que Maxime, enchanté de cette situation critique, ricanait en dessous. Quand la calèche se remit à rouler, comme sa belle-mère gardait un silence sombre, il crut qu'elle boudait et s'attendit à une de ces scènes maternelles, une de ces étranges gronderies dont elle occupait encore parfois ses lassitudes. « Est-ce que tu connais le bijoutier de cette dame ?» lui demanda-t-elle brusquement au moment où ils arrivaient à la place de la Concorde. « Hélas, oui, » répondit-il avec un sourire. « Je lui dois 10 000 francs. Pourquoi me demandes-tu cela ?»«
Pour rien. »
Puis, au bout d'un nouveau silence, « Elle avait un bien joli bracelet, celui de la main gauche. J'aurais voulu le voir de près. » Il rentrait. Elle n'en dit pas davantage. Seulement, le lendemain, au moment où Maxime et son père allaient sortir ensemble, elle prit le jeune homme à part et lui parla bas, d'un air embarrassé, avec un joli sourire qui demandait grâce. Il parut surpris et s'en alla, en riant de son air mauvais. Le soir, il apporta le bracelet de Sylvia que sa belle-mère l'avait supplié de lui montrer.
« Voilà la chose, dit-il. On se ferait voleur pour vous, belle maman. »
« Elle ne t'a pas vu le prendre ? » demanda René, qui examinait avidement le bijou.
« Je ne le crois pas. Elle l'a mis hier, elle ne voudra certainement pas le mettre aujourd'hui. »
Cependant, la jeune femme s'était approchée de la fenêtre. Elle avait mis le bracelet. Elle tenait son poignet un peu levé,
le tournant lentement, ravi, répétant « Oh, très joli, très joli. Il n'y a que les émeraudes qui ne me plaisent pas beaucoup. » À ce moment, Saka rentra, et comme elle avait toujours le poignet levé dans la clarté blanche de la fenêtre, « Tiens !» s'écria-t-il avec étonnement, « le bracelet de Sylvia !»« Vous connaissez ce bijou ?» dit-elle, plus gênée que lui, ne sachant plus que faire de son bras. Il s'était remis. Il menaça son fils du doigt en murmurant, « Ce polisson a toujours du fruit défendu dans les poches. Un de ces jours, il nous apportera le bras de la dame avec le bracelet. » « Eh, ce n'est pas moi !» répondit Maxime avec une lâcheté sournoise. « C'est René qui a voulu le voir !»« Ah !» se contenta de dire le mari. Et il regarda à son tour le bijou, répétant comme sa femme, « Il est très joli, très joli !» Puis il s'en alla tranquillement. Et René gronda Maxime de l'avoir ainsi vendu. Mais il affirma que son père se moquait bien de ça. Alors, elle lui rendit le bracelet en ajoutant « Tu passeras chez le bijoutier. Tu m'en commanderas un tout pareil. Seulement, tu feras remplacer les émeraudes par des saphirs. » Saccard ne pouvait garder longtemps dans son voisinage une chose ou une personne sans vouloir la vendre, en tirer un profit quelconque. Son fils n'avait pas 20 ans qu'il songea à l'utiliser. Un joli garçon, neveu d'un ministre, fils d'un grand financier, devait être d'un bon placement. Il était bien un peu jeune, mais on pouvait toujours lui chercher une femme et une dot, quitte à traîner le mariage en longueur ou à le précipiter selon les embarras d'argent de la maison. Il eut la main heureuse. Il trouva, dans un conseil de surveillance dont il faisait partie, un grand bel homme, Monsieur de Mareuil, qui en 2 jours lui appartint. Monsieur de Mareuil était un ancien raffineur du Havre, du nom de Bonnet. Après avoir amassé une grosse fortune, il avait épousé une jeune fille noble, fort riche également, qui cherchait un imbécile de grande mine. Bonnet obtint de prendre le nom de sa femme, ce qui fut pour lui une première satisfaction d'orgueil. Mais son mariage lui avait donné une ambition folle. Il rêvait de payer Hélène de sa noblesse en acquérant une haute situation politique. Dès ce moment, il mit de l'argent dans les nouveaux journaux. Il acheta au fond de la Nièvre de grandes propriétés. Il se prépara par tous les moyens connus une candidature au corps législatif. Jusque-là, il avait échoué, sans rien perdre de sa solennité. C'était le cerveau le plus incroyablement vide qu'on pût rencontrer. Il avait une carrure superbe, la face blanche et pensive d'un grand homme d'État. Et, comme il écoutait d'une façon merveilleuse, avec des regards profonds, un calme majestueux du visage, on pouvait croire à un prodigieux travail intérieur de compréhension et de déduction. Sûrement, il ne pensait à rien, mais il arrivait à troubler les gens qui ne savaient plus s'ils avaient affaire à un homme supérieur ou à un imbécile. Monsieur de Mareuil s'attacha à Saccard comme à sa planche de salut. Il savait qu'une candidature officielle allait être libre dans la Nièvre. Il souhaitait ardemment que le ministre le désignât. C'était son dernier coup de carte. Aussi se livra-t-il pieds et poings liés aux frères du ministre. Saccard, qui flaira une bonne affaire, le poussa à l'idée d'un mariage entre sa fille Louise et Maxime. L'autre se répandit en effusion, crut avoir trouvé le premier cette idée de mariage, s'estima fort heureux d'entrer dans la famille d'un ministre et de donner Louise à un jeune homme qui paraissait avoir les plus belles espérances. Louise aurait, disait son père, 1 million de dots. Contrefaite, laide et adorable, elle était condamnée à mourir jeune. Une maladie de poitrine la minait sourdement, lui donnait une gaieté nerveuse, une grâce caressante. Les petites filles malades vieillissent vite, deviennent femmes avant l'âge. Elle avait une naïveté sensuelle. Elle semblait être née à 15 ans, en pleine puberté. Quand son père, ce colosse saint et abêti, la regardait, il ne pouvait croire qu'elle fût sa fille. Sa mère, de son vivant, était également une femme grande et forte. Mais il courait sur sa mémoire des histoires qui expliquaient le rabougrissement de cet enfant, ses allures de bohémienne millionnaire, sa laideur vicieuse et charmante. On disait qu'Hélène de Mareuil était morte dans les débordements les plus honteux. Les plaisirs l'avaient rongée comme un ulcère, sans que son mari s'aperçût de la folie lucide de sa femme qu'il aurait dû faire enfermer dans une maison de santé. Portée dans ses flancs malades, Louise en était sortie le sang pauvre, les membres déviés, le cerveau attaqué, la mémoire déjà pleine d'une vie sale. Parfois, elle croyait se souvenir confusément d'une autre existence. Elle voyait se dérouler, dans une ombre vague, des scènes bizarres, des hommes et des femmes s'embrassant, tout un drame charnel où s'amusaient ses curiosités d'enfant. C'était sa mère qui parlait en elle. Sa puérilité continuait ce vice. À mesure qu'elle grandissait, rien ne l'étonnait. Elle se rappelait tout, ou plutôt, elle savait tout, et elle allait aux choses défendues avec une sûreté de main qui la faisait ressembler, dans la vie, à une personne rentrant chez elle après une longue absence et n'ayant qu'à allonger le bras pour se mettre à l'aise et jouir de sa demeure. Cette singulière fillette, dont les instincts mauvais flattaient les siens, mais qui avait de plus une innocence d'effronterie, un mélange piquant d'enfantillage et de hardiesse, dans cette seconde vie qu'elle revivait vierge avec sa science et sa honte de femme faite, devait finir par plaire à Maxime et lui paraître beaucoup plus drôle même que Sylvia, un cœur d'usurier, fille d'un honnête papetier et horriblement bourgeoise au fond. Le mariage fut arrêté en riant, et l'on décida qu'on laisserait grandir les gamins. Les deux familles vivaient dans une amitié totale. Monsieur de Mareuil poussait sa candidature, Saccard guettait sa proie. Il fut entendu que Maxime mettrait, dans la corbeille de noces, sa nomination d'auditeur au Conseil d'État. Cependant, la fortune des Saccard semblait à son apogée. Elle brûlait en plein Paris comme un feu de joie colossal. C'était l'heure où la curée ardente emplit un coin de forêt de l'aboiement des chiens, du claquement des fouets, du flamboiement des torches. Les appétits lâchés se contentaient enfin, dans l'impudence du triomphe, au bruit des quartiers écroulés et des fortunes bâties en 6 mois. La ville n'était plus qu'une grande débauche de millions et de femmes. Le vice venu de haut coulait dans les ruisseaux, s'étalait dans les bassins, remontait dans les jets d'eau des jardins pour retomber sur les toits en pluie fine et pénétrante. Et il semblait la nuit, lorsqu'on passait les ponts, que la Seine charriât au milieu de la ville endormie les ordures de la cité. Miettes tombées de la table, nœuds de dentelle laissés sur les divans, chevelures oubliées dans les fiacres, billets de banque glissés des corsages, tout ce que la brutalité du désir et le contentement immédiat de l'instinct jettent à la rue, après l'avoir brisé et souillé. Alors, dans le sommeil fiévreux de Paris, et mieux encore que dans sa quête haletante du grand jour, on sentait le détraquement cérébral, le cauchemar doré et voluptueux d'une ville folle de son or et de sa chair. Jusqu'à minuit, les violons chantaient, puis les fenêtres s'éteignaient et les ombres descendaient sur la ville. C'était comme une alcôve colossale où l'on aurait soufflé la dernière bougie, éteint la dernière pudeur. Il n'y avait plus, au fond des ténèbres, qu'un grand râle d'amour furieux est là. Tandis que les Tuileries, au bord de l'eau, allongeaient leurs bras dans le noir, comme pour une embrassade énorme. Saccard venait de faire bâtir son hôtel du parc Monceau sur un terrain volé à la ville. Il s'y était réservé au premier étage un cabinet superbe, palissandre et or, avec de hautes vitrines de bibliothèque pleines de dossiers et où on ne voyait pas un livre. Le coffre-fort, enfoncé dans le mur, se creusait comme une alcôve de fer, grande à y coucher les amours d'un milliard. Sa fortune s'y épanouissait, s'y étalait insolemment. Tout paraissait lui réussir. Lorsqu'il quitta la rue de Rivoli, agrandissant son train de maison, doublant sa dépense, il parla à ses familiers de gains considérables. Selon lui, son association avec les sieurs Mignon et Charrier lui rapportait d'énormes bénéfices. Ses spéculations sur les immeubles allaient mieux encore. Quant au crédit viticole, c'était une vache à lait inépuisable. Il avait une façon d'énumérer ses richesses qui étourdissait les auditeurs et les empêchait de voir bien clair. Son asillement de provençal redoublait. Il tirait, avec ses phrases courtes et ses gestes nerveux, des feux d'artifice où les millions montaient en fusée et qui finissaient par éblouir les plus incrédules. Cette mimique turbulente d'homme riche était pour une bonne part dans la réputation d'heureux joueur qu'il avait acquise. À la vérité, personne ne lui connaissait un capital net et solide. Ses différents associés, forcément au courant de sa situation vis-à-vis d'eux, s'expliquaient sa fortune colossale en croyant à son bonheur absolu dans les autres spéculations, celles qu'il ne connaissait pas. Il dépensait un argent fou. Le ruissellement de sa caisse continuait sans que les sources de ce fleuve d'or eussent été encore découvertes. C'était la démence pure, la rage de l'argent, les poignées de louis jetées par les fenêtres, le coffre-fort vidé chaque soir jusqu'au dernier sou, se remplissant pendant la nuit, on ne savait comment, et ne fournissant jamais d'aussi fortes sommes que lorsque Saccard prétendait en avoir perdu les clés. Dans cette fortune, qui avait les clameurs et le débordement d'un torrent d'hiver, la dot de René se trouvait secouée, emportée, noyée. La jeune femme, méfiante les premiers jours, voulant gérer ses biens elle-même, se lassa bientôt des affaires. Puis elle se sentit pauvre à côté de son mari, et la dette l'écrasant, elle dut avoir recours à lui, lui emprunter de l'argent, se mettre à sa discrétion. À chaque nouveau mémoire, qu'il payait avec un sourire d'homme tendre aux faiblesses humaines, elle se livrait un peu plus, lui confiait des titres de rente, l'autorisait à vendre ceci ou cela. Quand ils vinrent habiter l'hôtel du parc Monceau, elle se trouvait déjà presque entièrement dépouillée. Il s'était substitué à l'État et lui servait la rente des 100 000 francs provenant de la rue de la Pépinière. D'autre part, il lui avait fait vendre la propriété de la Sologne pour en mettre l'argent dans une grande affaire. Un placement superbe, disait-il. Elle n'avait donc plus entre les mains que les terrains de Charonne qu'elle refusait obstinément d'aliéner pour ne pas attrister l'excellente tante Élisabeth. Et là encore, il préparait un coup de génie avec l'aide de son ancien complice, Larsonneau. D'ailleurs, elle restait son obligée. S'il lui avait pris sa fortune, il lui en payait 5 ou 6 fois les revenus. La rente des 100 000 francs, jointe au produit de l'argent de la Sologne, montait à peine à 9 ou 10 000 francs, juste de quoi solder sa lingère et son cordonnier. Il lui donnait, ou donnait pour elle, 15 et 20 fois cette misère. Il aurait travaillé 8 jours pour lui voler 100 francs, et il l'entretenait royalement. Aussi, comme tout le monde, elle avait le respect de la caisse monumentale de son mari, sans chercher à pénétrer le néant de ce fleuve d'or qui lui passait sous les yeux, et dans lequel elle se jetait chaque matin. Au parc Monceau, Ce fut la crise folle, le triomphe fulgurant. Les Saccards doublèrent le nombre de leurs voitures et de leurs attelages. Ils eurent une armée de domestiques qu'ils habillèrent d'une livrée gros bleu avec culotte mastique et gilet rayé noir et jaune, couleurs un peu sévères que le financier avait choisies pour paraître tout à fait un de ses rêves les plus caressés. Ils mirent leur luxe sur la façade et ouvrirent les rideaux les jours de grand dîner. Le coup de vent de la vie contemporaine, qui avait fait battre les portes du premier étage de la rue de Rivoli, était devenu, dans l'hôtel, un véritable ouragan qui menaçait d'emporter les cloisons. Au milieu de ces appartements princiers, le long des rampes dorées, sur les tapis de haute laine, dans ce palais féerique de parvenus, l'odeur de ma bille traînait, les déhanchements de quadrilles à la mode dansaient. Toute l'époque passait avec son rire fou et bête, son éternelle faim et son éternelle soif. C'était la maison suspecte du plaisir mondain, du plaisir impudent qui élargit les fenêtres pour mettre les passants dans la confidence des alcôves. Le mari et la femme y vivaient librement, sous les yeux de leurs domestiques. Ils s'étaient partagé la maison, ils y campaient, n'ayant pas l'air d'être chez eux, comme jetés au bout d'un voyage tumultueux et étourdissant dans quelque royal hôtel garni où ils n'avaient pris que le temps de défaire leur mal pour courir plus vite aux jouissances d'une ville nouvelle. Ils y logeaient à la nuit, ne restant chez eux que les jours de grand dîner, emportés par une course continuelle à travers Paris, rentrant parfois pour une heure comme on rentre dans une chambre d'auberge entre deux excursions. Renée s'y sentait plus inquiète, plus rêveuse. Ses jupes de soie glissaient avec des sifflements de couleuvres sur les épais tapis, le long du satin des causeuses. Elle était irritée par ces dorures imbéciles qui l'entouraient, par ces hauts plafonds vides où ne restaient, après les nuits de fête, que les rires des jeunes sots et les sentences des vieux fripons. Et elle eût voulu, pour remplir ce luxe, pour habiter ce rayonnement, un amusement suprême que ses curiosités cherchaient en vain, dans tous les coins de l'hôtel, dans le petit salon couleur de soleil, dans la serre aux végétations grasses. Quant à Saccard, il touchait à son rêve. Il recevait la haute finance, M. Toutain-Laroche, M. de Lowerens. Il recevait aussi les grands politiques, le baron Gouraud, le député Hafner. Son frère, le ministre, avait même bien voulu venir deux ou trois fois consolider sa situation par sa présence. Cependant, comme sa femme, il avait des anxiétés nerveuses, une inquiétude qui donnait à son rire un étrange son de vitres brisées. Il devenait si tourbillonnant, si effaré, que ses connaissances disaient de lui « Ce diable de Saccard, il gagne trop d'argent, il en deviendra fou !» En 1860, on l'avait décoré, à la suite d'un service mystérieux qu'il avait rendu au préfet, en servant de prête-nom à une dame dans une vente de terrain. Ce fut vers l'époque de leur installation au parc Monceau qu'une apparition passa dans la vie de René, en lui laissant une impression ineffaçable. Jusque-là, le ministre avait résisté aux supplications de sa belle-sœur, qui mourait d'envie d'être invité au bal de la cour. Il céda enfin, croyant la fortune de son frère définitivement assise. Pendant un mois, Renée n'en dormit pas. La grande soirée arriva, et elle était toute tremblante dans la voiture qui l'amenait aux Tuileries. Elle avait une toilette prodigieuse, de grâce et d'originalité. Une vraie trouvaille qu'elle avait faite dans une nuit d'insomnie et que trois ouvriers de Worms étaient venus exécuter chez elle sous ses yeux. C'était une simple robe de gaze blanche, mais garnie d'une multitude de petits volants découpés et bordés d'un filet de velours noir. La tunique, de velours noir, était décolletée en carré, très bas sur la gorge, qu'encadrait une dentelle mince, haute à peine d'un doigt. Pas une fleur, pas un bout de ruban. À ses poignets, des bracelets sans une ciselure, et sur sa tête, un étroit diadème d'or, un cercle uni qui lui mettait comme une auréole. Quand elle fut dans les salons et que son mari l'eut quittée pour le baron Gouraud, elle éprouva un moment d'embarras, mais les glaces où elle se voyait adorable la rassurèrent vite, et elle s'habituait à l'air chaud, au murmure des voix, à cette cohue d'habits noirs et d'épaules blanches, lorsque l'empereur parut. Il traversait lentement le salon, au bras d'un général gros et court, qui soufflait comme s'il avait eu une digestion difficile. Les épaules se rangèrent sur deux haies, tandis que les habits noirs reculèrent d'un pas, instinctivement, d'un air discret. René se trouva poussé au bout de la file des épaules, près de la seconde porte, celle que l'empereur gagnait d'un pas pénible et vacillant. Elle le vit ainsi venir à elle, d'une porte à l'autre. Il était en habit, avec l'écharpe rouge du grand cordon. René, reprise par l'émotion, distinguait mal, et cette tache saignante lui semblait éclabousser toute la poitrine du prince. Elle le trouva petit, les jambes trop courtes, les reins flottants. Mais elle était ravie, et elle le voyait beau avec son visage blême, sa paupière lourde et plombée qui retombait sur son œil mort. Sous ses moustaches, sa bouche s'ouvrait mollement, tandis que son nez seul restait osseux dans toute sa face dissoute. L'empereur et le vieux général continuaient à avancer à petits pas, paraissant se soutenir, à Longhi, vaguement souriant. Ils regardaient les dames inclinées, et leurs coups d'œil, jetés à droite et à gauche, glissaient dans les corsages. Le général se penchait, disait un mot au maître, lui serrait le bras d'un air de joyeux compagnon. Et l'empereur, mou et voilé, plus terne encore que de coutume, approchait toujours de sa marche traînante. Ils étaient au milieu du salon lorsque René sentit leur regard se fixer sur elle. Le général la regardait avec des yeux ronds, tandis que l'empereur, levant à demi les paupières, avait des lueurs fauves dans l'hésitation grise de ses yeux brouillés. René, décontenancé, baissa la tête, s'inclina, ne vit plus que les rosaces du tapis. Mais elle suivait leur ombre, elle comprit qu'ils s'arrêtaient quelques secondes devant elle, et elle crut entendre l'empereur, ce rêveur équivoque, qui murmurait en la regardant enfoncée dans sa jupe de mousseline striée de velours. « Voyez donc, général, une fleur à cueillir, un mystérieux œillet panaché blanc et noir. » Et le général répondit d'une voix plus brutale, « Sire, cet œillet-là irait diantrement bien à nos boutonnières. » René leva la tête. L'apparition avait disparu, un flot de foule encombrait la porte. Depuis cette soirée, elle revint souvent aux Tuileries. Elle eut même l'honneur d'être complimentée à voix haute par sa majesté et de devenir un peu son amie. Mais elle se rappela toujours la marche lente et alourdie du prince au milieu du salon entre les deux rangées d'épaules. Et quand elle goûtait quelque joie nouvelle dans la fortune grandissante de son mari, elle revoyait l'empereur dominant les gorges inclinées, venant à elle, la comparant à un œillet que le vieux général conseillait de mettre à sa boutonnière. C'était pour elle la note aiguë de sa vie.